Je m'entretiens aujourd'hui avec André Melançon, artiste et intervenant multiple, comédien, scénariste, metteur en scène, réalisateur, éducateur. Je m'intéresserai ici au documentariste, celui qui prend d'emblée le parti des enfants. Il a réalisé en 2007 L'âge de passion, documentaire dont le but était de faire le point aujourd'hui avec un certain nombre d'individus qui avaient participé, lorsqu'ils étaient enfants, à un de ses documentaires précédents, Les vrais perdants, produit en 1978. Avec son documentaire, L'âge de passion, André Melançon ne désire pas retrouver les adultes qu'ils sont devenus. Il ne fait pas ici ce qui a été fait il n'y a pas si longtemps avec les comédiens d'un autre de ses films, La guerre des tuques, comédiens qui sont devenus les personnages d'une histoire auxquels on se serait tellement attaché que l'on désire les revoir à l'âge adulte. L'âge de passion n'a pas été réalisé pour satisfaire ce genre de curiosité. Le rapport que ce dernier documentaire entretient avec les vrais perdants est nettement plus profond. Il est au cœur, à mon avis, du double engagement d'André Melançon dans le travail avec les enfants et dans le cinéma documentaire. C'est autour de ce double engagement, autour aussi de ces deux films, que j'en m'entretiens avec lui aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Commençons par une partie de ce que je viens d'appeler votre double engagement. D'où vient votre sensibilité pour les enfants, votre bienveillance à leur égard?
Bienveillance peut-être, curiosité beaucoup, curiosité face à l'enfant. Ça vient d'aussi loin que je me souviens. J'ai toujours aimé raconter des histoires aux enfants. Je me souviens quand j'avais 12-13 ans, je montais des spectacles dans le garage désaffecté de mon père pour les enfants du quartier. Ce qui est très particulier, c'est que j'avais donc depuis l'âge de 10-12 ans beaucoup d'intérêt pour les enfants, beaucoup de curiosité, et j'avais aussi depuis l'âge de 5-6 ans beaucoup d'intérêt pour le cinéma. Mais je n'avais jamais fait le croisement. C'est un croisement accidentel, si je peux dire. J'ai commencé à faire du cinéma amateur à 13-14 ans. Avec la caméra 8 mm de mon père, parce qu'à l'époque, c'était même pas du Super 8, c'était du 8 mm. Donc, j'ai fait du cinéma amateur pendant mon adolescence, la partie de Rouyn-Noranda, parce que je suis originaire de cette ville-là. Et à l'âge de 16-17 ans, ma famille a déménagé à Montréal. Et j'ai continué donc à faire du cinéma amateur. Mais comme j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de débouchés réels, j'ai fait ma psychoéducation et j'ai travaillé dans une institution de rééducation pour jeunes délinquants qui était Boscoville dans les années 60.
Donc là, vous étiez vraiment là, avec les psychoéducateur, jeunes. Travailleur...
Oui, psychoéducateur avec les jeunes et j'animais des ateliers de théâtre, de cinéma.
Donc ça passait jeunes. Déjà par l'art, votre engagement passait
déjà. Tout à fait. Et j'ai laissé Boscoville, j'ai pris la chance de vivre de cinéma. Et je suis rentré à l'ONF comme pigiste. J'ai travaillé plusieurs années à l'office, mais toujours comme pigiste. Et je me souviens, les premières années, c'était des films avec des adultes. Donc, je continuais à être intéressé par les enfants, mais je faisais des films avec les adultes.
Oui, mais pour quand même, bon, il y a eu votre film sur les armes, mais après, il y a eu les tacos, les oreilles mènent l'enquête.
C'est avec les tacos. Donc, c'est 3 ans après que j'avais fait d'autres films, 2 ou 3 ans, qu'il y a une série qui a démarré à l'Office national du film qui s'appelait « Tout le monde parle français » et qui s'adressait... En fait, c'est une série en 3 sections. Il y avait une section adulte, une section adolescent, une section enfant. Et les cinéastes de l'ONF, c'était des courts-métrages, hein, étaient tous intéressés par les films qui s'adressaient aux adultes ou aux adolescents, mais beaucoup moins aux enfants. Et c'est Jacques Bobet, à l'époque, qui m'a proposé d'en faire un. Et j'ai dit, écoute, moi, je connais un petit peu le travail avec les enfants, je peux... Et j'ai écrit le scénario des tacos.
Est-ce que vous avez trouvé vos comédiens?
À l'époque, et ça, c'est jusqu'au tournage de Bac et Bottine, à cette époque-là, donc de 71 à 85, 86, il n'y avait pas d'agence de casting pour enfants. Je regarde, par exemple, Jean Baudin pour le Matou aussi, il était obligé d'aller dans les écoles. Moi, je faisais le tour des écoles. Pour l'État-Co, je suis allé dans une dizaine d'écoles, j'ai rencontré des enfants, des garçons, des filles, et j'ai fait des auditions.
Mais avec Observation 1, 2 et 3, on sent que là, le regard est plus... c'est plus une fiction,
ouais,
c'est plus...
C'est très particulier, oui. C'est des films qui ont été faits derrière un miroir, où je mettais des enfants qui ne se connaissaient pas, des enfants de 8 à 12 ans. Je les mettais... Le studio, c'était comme un gymnase avec des accessoires de gymnastique. Et je mettais les enfants là. On leur avait dit que je voulais les rencontrer pour un casting, mais en attendant que j'arrive, ils pouvaient s'amuser entre eux. J'essayais de jauger le degré de compétition qu'il y avait entre les enfants. Donc, les instruments pouvaient servir à se mesurer les uns aux autres.
Dans le processus de socialisation, il y avait tout ça qui intervenait.
Et ça, c'était fait, ces tournages-là derrière le miroir, c'était fait dans le cadre du tournage des Vrais perdants, qui est un film sur la compétition.
Oui.
Et je voulais voir comment la compétition se développe spontanément chez l'enfant.
Chez les enfants.
Pas pu l'intégrer au film même.
Ah, vous deviez à l'origine intégrer.
Un petit peu comme les vignettes que j'ai faites du bébé dans L'Âge de passion. Et là, on a essayé avec le monteur, ça n'entrait pas dans les Vrais perdants. Donc, j'ai proposé au producteur, je pense que c'était Jacques Gagnon à l'époque, d'en faire des films. C'est un peu des films laboratoires.
Oui, exactement. C'est l'impression. C'est peut-être là que j'ai ressenti ce que vous dites dans L'Âge de passion à un moment donné. Vous dites à ces adultes, ces enfants qui sont aujourd'hui adultes, vous leur dites « j'ai toujours pris le parti des enfants ». Qu'est-ce que vous entendez par « je prends le parti des enfants » ?
Un parti pris, on peut appeler ça aussi un préjugé. Un parti pris, c'est de dire qu'au point de départ, je donne toutes les chances à l'enfant. Je prends d'abord et avant tout pour l'enfant. La seule chose qui me fait peur à l'intérieur de cette démarche-là, c'est que l'enfant devienne l'enfant roi. Et il y en a eu beaucoup d'enfants rois dans différentes générations.
Oui, donc c'est pas le laisser-faire, faites ce que vous voulez.
Je me mets à l'écoute d'un enfant, puis là, depuis toute ma rencontre avec le docteur Gilles Julien, puis le travail, parce que je continue encore le travail avec ces enfants-là d'Hochelaga-Maisonneuve, j'anime des ateliers de théâtre. C'est de se mettre à l'écoute de l'enfant.
Donc, ce serait peut-être une définition de prendre le parti de l'enfant, ça va être à l'écoute.
Ce serait se mettre à l'écoute des besoins de l'enfant et s'organiser pour qu'il puisse aller au bout de ses rêves, mais en faisant attention de ne pas se mettre à l'écoute des caprices de l'enfant. C'est autre chose.
Être à l'écoute, ça serait ça.
C'est quoi tes besoins? Quoi tes besoins et comment tu veux les exprimer? Et c'est quoi tes rêves? Je travaille depuis 4 ans avec trois enfants, entre autres, 2 fillettes et un garçon, qui rêvent de faire du théâtre. Et on fait du théâtre. Ils ont fait des pièces, des petites pièces que j'avais écrites comme ça. Et depuis 2 ans, on s'est attaqué à Tchekhov.
Des enfants.
Oui, avec ces 3 enfants-là. J'ai monté des courtes pièces que Tchekhov avait écrites à l'époque, des pièces de 20 minutes. Donc, on a monté l'année passée La demande en mariage. C'était fascinant. Puis cette année, on est en train de travailler L'ours avec les 3 mêmes enfants. Donc, c'est d'aller au bout. Ils ont des rêves de chanter, de danser, de faire de l'art dramatique, et on les amène au bout de ça, en les écoutant. Mais en même temps, c'est très exigeant. Ils doivent apprendre le texte, ils doivent suivre les consignes de mise en scène.
Donc, c'est un désir qui n'est pas encore formé, mais qui est là.
Oui, puis le parcours de fabrication, si je peux dire, de ces projets-là, c'est magnifique parce qu'ils apprennent. Ils apprennent l'endurance, ils apprennent la concentration, ce qui est énorme. Ils apprennent l'écoute des autres. Quand tu joues avec quelqu'un, tu n'as pas le choix, il faut que tu l'écoutes. Et donc, toutes ces choses-là leur servent dans leur quotidien.
Vous, en tant que créateur, il y a quelque chose de beau dans l'enfance, c'est-à-dire ce désir qui est en train de devenir quelque chose.
Oui.
Et c'est peut-être ça aussi qui... Est-ce que c'est ça qui vous attire aussi?
Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de compromis, j'ai l'impression.
Mm-hmm.
C'est un petit peu... Je reviens à cette vignette-là d'une petite fille de 11 mois qui apprend à marcher et a été suivie par son père.
Dans l'âge de passion. Ouais.
Dans l'âge de passion. Son père l'a suivie pendant les 4 mois où elle a réussi. Elle commence d'abord, elle marche en se tenant près des objets, puis progressivement. Et à quelques reprises, elle se casse la gueule royalement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle continue. Elle continue. Donc, cette détermination-là. L'enfant, bébé, vit en rampant ou en étant assise dans un milieu où elle se rend compte que les autres enfants un peu plus vieux et les adultes sont debout. Et elle veut apprendre à être debout pour appartenir à cette collectivité-là. Et l'exigence physique, simplement pour un bébé de 10-11 mois, l'exigence physique que ça demande de se mettre debout. Et les bobos, veut dire se casser la gueule parce qu'ils tombent de haut. Et c'est cette espèce de détermination et d'endurance, elle appartient aux enfants. Donc, elle est là au point de départ. L'endurance, c'est pas le père ou la mère qui la donne, ça l'appartient à l'enfant. Et c'est ça qu'il faut lui permettre de l'amener.
De développer, l'accompagner.
Oui, tout à fait, de l'accompagner. Ouais.
Passons tout de suite à l'autre engagement dont je parlais, celui... votre engagement dans le cinéma documentaire. Il va y avoir toutes sortes de liens, j'imagine, avec votre engagement envers les enfants. Donc, je me demande d'où vient votre volonté de faire des films. Bon, vous m'aviez dit que vous aviez une caméra minimale. Vous avez commencé donc avec cette caméra, mais quand même, il y a quand même le geste de prendre une caméra et de filmer le réel. Filmer le réel, ou du moins le quotidien, ce qui nous entoure, ce que n'a pas fait tout le monde non plus.
Oui. Ça commence très jeune. Ça commence à Rouen. Je suis né en 42. Et ma grand-mère paternelle vivait à la maison. Elle était veuve, donc elle était venue vivre avec mon père et ma mère. Et c'est une personne très exigeante. Le jour, c'est une ancienne maîtresse d'école. Donc, on était 4 enfants à la maison, tous des premiers de classe, va sans dire. Une personne très, très exigeante. Et le soir, ça devenait une autre personne, ça devenait la conteuse. Il faut dire qu'à l'époque, les années 40, il n'y avait pas de télévision. Donc, le soir, bon, mes parents écoutaient un peu la radio ou de la musique. Et nous autres, je me vois, on s'assoyait autour de la grand-mère et presque à chaque soir, elle nous racontait des choses. Et elle a développé en moi le plaisir de me faire raconter des histoires. J'adore qu'on me raconte des histoires.
Okay.
Parce qu'à l'intérieur de l'histoire, des fois, il y a de la fiction, mais il y a plein de réflexions, de regards sur la vie. Donc, j'ai adoré très jeune de me faire raconter des histoires et j'ai découvert très jeune aussi le plaisir de raconter. J'aurais pu le faire par l'écriture, j'aurais pu le faire par la peinture. Moi, c'était le cinéma tout de suite. Mon premier film, je l'ai vu à 4 ans. Dans la salle de récréation de l'école Saint-Michel, qui est une école primaire où chaque samedi-dimanche, les classes aviateurs projetaient des films. Alors, je suis allé là très jeune et j'ai été fasciné par le cinéma. Donc, très jeune, j'ai voulu raconter à travers le cinéma. Maintenant, raconter, ça peut être aussi bien raconter l'histoire d'une petite fille qui est seule et qui se retrouve chez son oncle, qui lui joue de la musique. Puis il y a très peu de contact avec elle et que lentement elle va l'apprivoiser parce qu'elle va lui dire ce qu'est un enfant, puis elle va lui demander à lui d'être comme adulte, de l'écouter, qui est une fiction qui s'appelle Bac et Bottine, mais ça peut être aussi le temps, l'espace d'un été, qui est l'été de 3 garçons qui habitent dans le quartier tout près du pont Jacques-Cartier. Et qui, on ne sait pas du tout, on a fait ce documentaire-là avec une équipe très, très légère, et on les a suivis pendant 3 mois durant l'été, sans du tout savoir à chaque matin qu'est-ce qui allait se passer. Mais on raconte aussi, d'une certaine façon, on raconte l'été qu'ils ont vécu ensemble.
Là, vous parlez de quel film?
Ça s'appelle « L'espace d'un été ». C'est un film qui avait été produit pour Télé-Québec. Ouais. Okay. Avec ensuite des chansons... Michel Rivard a fait des magnifiques chansons en partant des dialogues des enfants, qui n'étaient pas des dialogues écrits, en partant de ce qui se racontait. Michel a composé 3 ou 4 chansons magnifiques dans ce film-là.
Et est-ce que ce film-là, un peu comme Les 6 doigts de la main, c'est des films qui sont très difficiles à voir ou à mettre la main dessus?
Oui, c'est pas... Puis je dois avouer, si je vais être bien honnête avec vous, que j'ai pas cette préoccupation-là de garder mon matériel. Heureusement qu'existe la Cinémathèque québécoise qui conserve les films jusqu'à un certain point. J'ai pas du tout ce réflexe-là. J'ai quelques photos à moi. Mais la Cinémathèque fait ce travail-là. Et je sais qu'ils ont, par exemple, pour certains films, qui ont encore les éléments de tirage.
Et donc, on pourrait dire, pour un peu rassembler ces deux engagements-là, finalement, le cinéma, ça vient de votre enfance aussi, votre rapport au cinéma, par l'histoire. Ouais,
deux accidents de parcours. J'appelle ça des accidents de parcours. C'était pas prévu. La première à 4 ans, mes deux frères qui sont plus vieux que moi me disent cet après-midi, c'est un samedi, cet après-midi, on t'emmène voir des vues. J'avais jamais entendu parler de vues. On va aller voir des vues. Je les ai accompagnés, j'avais 4 ans, donc dans cette fameuse salle de régulation de l'école Saint-Michel, et j'ai vu un film de Tarzan. Et ça, c'était vraiment comme un chemin de Damas.
C'est une manière de raconter une histoire que vous avez plus tant tout de suite.
Oui, et là, j'ai allé beaucoup au cinéma, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, à Rouyn-Noranda, qui était une ville à peu près de 37 ou 40 000 habitants, il y avait 7 salles commerciales de cinéma, 7 salles de cinéma, qui fonctionnaient tous les soirs. Mm-hmm. Et souvent, ces salles-là fonctionnaient à des programmes doubles, donc 2 longs métrages. Comme j'ai grandi très rapidement, j'ai pu me faufiler dans les salles. Donc, j'allais beaucoup au cinéma. Et le deuxième accident de parcours, c'est un soir, mon frère est allé au cinéma Noranda voir un film. Je l'ai accompagné sans même me soucier de c'est quoi le film. Et sur le chemin de l'allée, Serge me dit c'est un film italien d'un type qui s'appelle Fellini. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et le film s'appelle La route, la strada. Mm-hmm. Je suis rentré dans la salle, j'avais 14 ans, et j'ai regardé ce film-là et je l'ai reçu. Je pourrais dire en plein cœur ou en pleine gueule, c'était... Et je suis sorti de la salle en disant à mon frère, oui, moi, c'est ça que je fais plus tard. Parce que j'avais découvert non seulement une histoire, comme ce que je voyais depuis 10 ans à Rouyn, quand je voyais des films, je voyais des histoires. Ce soir-là, j'avais découvert qu'il existait des façons de raconter une histoire et que celui qui avait fait ce film-là, avait une façon bien particulière de raconter une histoire. Donc, en d'autres termes, sans le savoir, je venais de découvrir le langage cinématographique. Un petit peu comme au niveau du roman, on se rend compte à un moment donné que Camus n'écrit pas comme Mauriac, qui n'écrit pas comme Monterland. Bon.
Ouais, c'est plus une masse, là, tout à coup, il y a des façons...
J'ai découvert le langage.
Okay, ouais.
Et c'était pour moi... magnifique, ça. Magnifique.
Oui, ça doit être une expérience, effectivement, qui est déterminante.
Je l'ai même raconté à Fellini la seule fois que je l'ai rencontré.
C'était à quelle occasion?
C'était au Festival de Moscou, 30 ans plus tard. Et je suis invité avec Bac et Bottine. Et le film gagne le premier prix dans la section jeunesse. Et donc, le soir, je suis récipiendaire du prix. Je monte chercher mon prix et... On est obligé de s'asseoir sur une chaise droite devant tout le public. Et c'est Fellini qui a gagné le dernier prix, qui était le grand prix du festival, pour Intervista. Et j'étais le seul qui n'était pas habillé en pingouin. Je n'avais pas de tuxedo. Et ça l'a fait rire en passant à côté de moi. Ça l'a fait rire. Et ça m'a comme juste rassuré. Puis après, je me suis approché de lui et j'ai raconté l'histoire. J'ai dit, il y a 30 ans, il y avait un garçon dans une petite ville très, très au nord de la province de Québec, qui a vu l'estrada et qui a décidé de faire du cinéma. Il s'est mis à rire, puis on s'est serré dans nos bras, puis c'était ça. Mais pour moi, c'était comme la finale de...
Oui, de l'histoire qui avait commencé. Oui. Et qui, d'ailleurs, continue aujourd'hui, parce que vous n'avez pas fini de faire des films. Je me demandais si le cinéma documentaire vous apparaissait comme un moyen de s'approcher, des enfants, un peu comme dans Observation 1, 2, 3. Là, on sent bien la proximité, même si vous dissimulez la caméra derrière un miroir. Donc, je me demandais si le cinéma documentaire n'était pas qu'un moyen pour arriver à montrer la réalité de l'enfance, ce qui peut être aussi une manière de prendre leur parti, de montrer la réalité de l'enfance. C'est aussi une manière d'être avec eux, ou du moins de les accompagner. Je me demandais si c'était ça, ou bien si au contraire, c'était pas aussi une expérience à part entière, le cinéma documentaire, une expérience cinématographique qui se distinguerait de votre engagement envers les enfants. Donc, même si vous filmez des enfants, vous voulez peut-être vous approcher de ces enfants-là. Je me demandais s'il n'y avait pas aussi un cinéma, si c'était une expérience, finalement, dont vous pouviez parler en soi, sans parler des enfants.
Oui, mais de ce que vous dites, il y a une chose importante. Ça me fait juste me rendre compte que ça dépend vraiment du type de film. Ça dépend de l'histoire qui va être raconté dans le documentaire, parce qu'il y a une histoire aussi. Quand je regarde, par exemple, pour moi, l'approche que j'ai eue pour Les Vrais Perdants est assez proche de l'approche ou du langage que j'ai utilisé pour L'Âge de passion. J'ai un contact correct avec les enfants chaleureux, mais je reste le plus neutre possible pour aller chercher ce qu'ils ont en livret. Je vais m'asseoir devant un enfant qui fait du violon, du violoncelle, et je vais essayer de m'informer. C'est-à-dire que je vais lui demander comment tu te sens quand tu te rends compte, par exemple, que dans la salle, ça émeut des gens. Et l'enfant va me confier, oui, ça me touche, je suis contente. Bon. C'est une relation que je dirais amicale, mais c'est un regard que je porte à l'enfant. Ça, pour moi, c'est Les Vrais Perdants, et c'est L'Âge de passion. Avec le parti pris que j'ai, mais c'est un regard qui essaye d'être le plus honnête possible. Et quand je me fais avoir, 30 ans après, je remets les pendules à l'heure, comme le petit gars qui me dit, dans L'Âge de passion, l'homme maintenant qui me dit c'est un frame-up, les rondelles d'acier. Ben, pour moi, c'est important de le remettre en disant, là, je m'étais fait avoir. Mais c'est un regard. Proche de ça, en parallèle avec ça, mais qui est différent, c'est L'Espace d'un été et c'est Printemps fragile. Où là, c'est plus qu'un regard, c'est vraiment un contact à double sens. Dans le sens que les enfants, je ne crois pas que les enfants de L'Âge de passion m'ont connu beaucoup. Ce qu'ils ont possiblement senti de moi, un petit peu comme les enfants des Vrais Perdants, c'est que je les écoutais beaucoup. Mais ils ne me connaissent pas tellement. Les enfants de L'Espace d'un été, et surtout les enfants de Printemps fragile, eux autres me connaissent plus, parce que j'ai fait plus que les regarder. Je suis entré en contact, j'ai discuté, je leur ai dit que ça, j'étais d'accord. Il y a eu une relation différente.
Oui, on sent très bien dans Printemps fragile. Bon, vous êtes engagé comme bénévole dans la maison du docteur Gilles Julien et votre recherchiste aussi. Donc j'ai eu le sentiment, c'est vrai, j'ai eu le sentiment. J'ai pas ce sentiment-là du tout dans Les Vrais Perdants ni dans L'Âge de passion, mais j'ai eu le sentiment dans Printemps fragile qu'à un moment donné, parce que vous étiez dans le film, que le film vous appartenait plus tout à fait, mais plutôt vous apparteniez au film, au même titre que les enfants. Et je me demandais à ce moment-là s'il n'y avait pas dans le Printemps fragile, contrairement peut-être à L'Âge de passion et au Vrai perdant, si c'était pas comme un moyen ethnographique, c'est-à-dire s'insérer dans un milieu pour le vivre, pour mieux sentir ou mieux en saisir la réalité.
Ça, c'est possible. En ce qui concerne Printemps fragile, c'est pas ça qui m'a motivé à adopter cette approche-là. Okay. C'est que pour moi, je ne pouvais pas aller filmer ces enfants-là uniquement en restant derrière la caméra puis dire « je vais les regarder ». Dans ce cas précis-là, je me suis dit « il faut que je sois avec eux autres ». Ils n'ont pas seulement un œil. Ce qui n'enlève rien aux enfants de L'Âge de passion, mais c'était une relation très différente, parce que là, j'avais à développer une complicité, donc une confiance mutuelle chez ces enfants-là, et qui va bien au-delà d'un tournage comme l'âge de raison, l'âge de passion. Parce que l'enfant de l'âge de passion, qu'il soit le patineur ou qu'il soit un violoniste, quand il me voyait arriver avec l'équipe, d'ailleurs, c'est important de le dire, c'est une co-réalisation. Hein. J'ai co-réalisé ce film-là avec Danny Croussette.
C'est oui, c'est autres, vrai. Oui.
C'est eux autres qui m'ont proposé, lui et sa compagne à l'époque, m'ont proposé de faire le film. J'étais plus ou moins chaud au début, puis finalement, non, on l'a fait. Donc, j'ai co-réalisé avec Danny. Mais les enfants qui nous voyaient arriver dans l'âge de passion savaient qu'on venait les filmer parce qu'ils faisaient du violon, parce qu'ils étaient bons en violon, parce qu'ils étaient bons en patin, à patinage artistique. Les enfants qui fréquentent la maison du docteur Julien, il n'y avait pas, comprenez, ces raisons-là.
Oui, c'est
donc,
ça. La caméra leur était beaucoup plus extérieure. En tout cas, dans tout votre relation avec eux, il n'y avait pas la caméra entre
eux.
Et
moi, j'ai passé les 7 mois avec eux autres, et c'était 2 après-midi par semaine, et l'équipe, en fait, l'équipe, c'était un caméraman et un preneur de son, venait 1 fois sur 2. Mm-hmm. Mais l'autre jour, le 2e jour, j'étais là aussi, mais sans caméra. Mais et ça a aidé.
Oui. Justement, à partir donc de deux pratiques du cinéma différentes, dans l'âge de Les Vrais Perdants et l'âge de passion, et opposons-les un peu à Printemps Fragile,
oui,
où vous étiez inséré. Est-ce que vous avez déjà distingué un peu ces deux genres de travail, le travail avec les enfants et le travail comme de la pratique documentaire en soi? Est-ce qu'il y a lieu de la distinguer ou il n'y a pas lieu de distinguer ça? Pour vous, c'est comme un tout. Mon travail avec les enfants et mon travail cinématographique, c'est un tout où... est-ce que vous êtes capable de les distinguer? Je travaille avec des enfants, mais je peux travailler aussi avec le cinéma. Et j'ai aussi une réflexion, une approche cinématographique qui est une expérience en soi.
Oui, pour moi, quand on regarde le produit final, qu'on met d'un côté, mettons, Les Vrais Perdants et L'Âge de passion, et de l'autre côté, Printemps fragile, le produit final est un documentaire. Mm-hmm. Mais il reste qu'il y a des différences fondamentales qui était mon implication devant la caméra, que je n'ai pas ni dans Les Vrais Perdants ni dans L'Âge de passion. Ça change des choses. C'est-à-dire que ça change strictement au niveau du langage cinématographique en ce qui concerne ces 3 documentaires-là. Dans les 2 premiers, Les Vrais Perdants et L'Âge de passion, je suis derrière la caméra et je peux, comme on dit en anglais, « caler les shots ». C'est-à-dire, je peux voir ce qui s'en vient et je vais dire au directeur photo, « essaie d'aller chercher ça ». Je peux construire pendant que le film se passe. C'est quelque chose de très organique, mais si on est éveillé, ça va. Donc, mon travail se fait beaucoup, beaucoup sur le plateau de cinéma. Pour Printemps fragile, c'est complètement différent. Le travail de cinéaste s'est fait au montage. Parce que j'avais des ententes de base avec le caméraman et le preneur de son. Mais eux autres étaient témoins ce soir-là. Et jamais, moi, pendant les 3 heures où ils filmaient, les fois où ils venaient filmer, là, jamais je me mettais dans la tête derrière la caméra. Je l'oubliais.
Vous les laissiez
comme
complètement.
Comme les enfants, je l'oubliais. Et je le retrouvais tout de suite le même soir, parce que tout de suite après avoir filmé, chaque jour, on allait passer 3 heures chez les producteurs pour regarder le matériel.
Donc, c'est deux façons très différentes de faire du cinéma documentaire. On le retrouve aussi dans votre cinéma de fiction. Vous êtes parfois comédien devant la caméra et parfois derrière la caméra en tant que réalisateur.
Jamais dans mes films, par contre. J'ai joué
Non, c'est vrai, dans vos films, non, c'est vrai.
J'ai joué une fois dans Les 6 doigts de la main, parce que le figurant, on avait changé une séquence, et le figurant qui devait être là n'était pas là, puis l'assistante m'a dit « fais les dons ». Je faisais une espèce de...
Dans La Guerre des Tuques, vous n'êtes pas le père à un moment donné, non?
Non, la voix.
La voix.
Je fais la voix du père, mais physiquement, c'était un autre.
OK.
Non, j'aime jouer à l'occasion dans les films de mes camarades, mais pas dans les miens.
Pas dans les vôtres. Donc, on va revenir un peu plus longuement sur les vrais perdants pour mieux ensuite comprendre l'âge des passions. Donc, dans Les Vrais Perdants, qui est sorti en 1978, vous avez voulu faire état de la situation des enfants qui, dans leur activité sportive ou musicale, sont soumis par leurs parents à des exigences de performance qui semblent étrangères au cours normal de la vie d'un enfant. On a nettement l'impression que ces enfants souffrent, qu'ils perdent au jeu, qu'ils sont envahis par les désirs trop grands de leurs parents. Je ne voudrais pas juger ici de la proposition de la thèse du film, qui me semble, du reste, assez bien justifiée. J'aimerais cependant savoir jusqu'à quel point on pourrait dire que la forme de documentaire que l'on pratiquait à l'époque, dans les années 60-70, là, ce qu'on pourrait appeler le cinéma direct, vous aurait permis, cette forme d'expression documentaire, vous aurait permis de mettre, justement, en évidence la thèse du film, c'est-à-dire les parents qui sont trop exigeants. Donc, le cinéma direct, c'était de filmer au plus près les gens dans ce qu'ils ont de plus quotidien, pour en dégager la réalité qui est parfois inaperçue. Donc je me demandais si vous aviez pas pratiqué d'une certaine manière du cinéma à la façon du cinéma direct pour pouvoir mettre en évidence quelque chose qui semblait pas être évident, c'est-à-dire cette exigence que les parents demandaient à leurs enfants.
Oui. Le terme expression, l'expression plutôt cinéma direct est quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est relié beaucoup, beaucoup à l'histoire du cinéma québécois.
Absolument.
Le cinéma direct, parce que on a eu des gens comme Michel Brault, le caméraman, qui a fait beaucoup de travail avec les laboratoires français à l'époque. Je pense à la compagnie Éclair qui construisait les caméras pour arriver à avoir du matériel très léger qui permettait de suivre. Mm-hmm. Et c'est à travers Michel Brault et ses camarades, par exemple, que Jean Rouch en France, qui était ethnologue, s'est servi aussi de cette légèreté. Bon, cinéma direct, c'est de regarder. Il n'y a pas 10 façons de cinéma direct. De tourner des gens, il y a 2 possibilités. On les tourne en étant présent, ou on les tourne à leur insu, en étant caché, ce qui donne caméra cachée ou surprise, surprise, bon. Quand on est présent, les gens le savent. Et là, c'est toute une question de quelle est la relation qui va s'établir entre l'équipe, le réalisateur et toute l'équipe, et les gens qui sont filmés. Et là, tout dépend du réalisateur. Moi, j'établis une relation avec les gens qui n'est pas du tout celle que Pierre Perrault établissait avec les gens, et qui n'est pas celle de Gladue. Donc, on a une façon, comme pour la fiction, on a une façon d'entrer en contact. Les gens savent qu'ils sont filmés. Jusqu'à quel degré ça peut jouer, on sait que par moment, ça peut jouer. À d'autres moments donnés, je sais par contre que plus facilement les enfants, qu'ils oublient la caméra.
Okay.
Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est Printemps fragile, où pendant 2 semaines, les enfants étaient très, très conscients de la caméra et à un moment donné, ils l'ont oublié. Mais il reste que les gens le savent et donc ils savent qu'ils sont filmés. Donc, c'est la relation que non seulement le cinéaste, le réalisateur, mais aussi toute l'équipe vont entrer avec eux autres. Comment ils vont entrer en contact et même le preneur de son. Un perchiste peut déranger beaucoup quelqu'un qui est filmé.
Justement, comment vous y êtes pris pour que les parents s'expriment sans aucune retenue dans leurs mots? Comment vous y êtes pris pour qu'ils disent comme ça, « Ah ben moi, je les entraîne le soir » ou « Ce parent, c'est assez terrible quand il dit à sa fille qui est à côté de lui la chose la plus terrible qui pourrait nous arriver », c'est qu'elle nous dit qu'elle veut plus faire de gymnastique.
Ce qui me décevrait le plus au monde.
Oui, quelque chose.
Oui, c'est vrai. Et ça, pour moi, c'est plus terrible que l'enfant qui se fait mal aux mains en faisant les barres parallèles, parce que ça va guérir dans une semaine, ça, ces mains-là. C'est plus lourd.
Oui, mais comment vous y êtes pris pour arriver à les... Comme
de
ça,
façon...
Parce que là, comme vous dites, vous étiez avec la caméra. Oui. Il savait très bien que la caméra était là.
Non seulement il savait, mais il avait accepté. Bon, je vais être très honnête avec vous, je suis pas arrivé en disant « je veux faire un documentaire qui va dénoncer ». Non. Ce que j'ai dit à tout le monde, et c'est presque textuel, là, je me souviens, c'est « je fais actuellement un documentaire sur des enfants qui vivent des situations quand même très exigeantes de compétition, et je veux voir comment les enfants le vivent ». Et tous les parents, autant culturels que sportifs, m'ont tous dit « il le vit très, très bien et c'est très bon pour lui ». Donc, ça m'a permis d'entrer en contact et de les regarder. Ces gens-là ont été les premiers à voir le film. Avant que le film sorte en salle, ils sont venus à l'Office national le premier soir. C'était les tout premiers à voir le film. Il y a des gens qui l'ont trouvé dur et d'autres gens qui ont dit « c'est difficile, mais il fallait le faire ». Est-ce que j'aurais pu tout de suite prendre position de faire un petit peu ce que je fais avec le Printemps fragile, c'est-à-dire être partie prenante puis dire « ça, je suis pas d'accord avec toi ». Je voulais tracer le portrait le plus possible et je savais au point de départ que j'avais envie que les enfants me disent des choses parce qu'ils parlaient très, très peu à l'époque. Ce que j'ai appris et ce qui était confirmé jusqu'à un certain point 30 ans plus tard, c'est que les enfants à 10-12 ans qui faisaient ça, ils prenaient du plaisir. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est deux autres choses, c'est que de temps en temps, le plaisir de réussir une épreuve était remplacé par le plaisir de faire plaisir. De un, et deux, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui étaient des enfants 30 ans plus tôt, qui m'ont dit, quand je leur demande, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez quand vous voyez le 30 ans plus tôt? Et il y en a 4-5 qui ont dit, je parlerai plus maintenant, je ne parlais pas assez.
Oui, c'est ce
Et
qu'on...
ça, pour moi, c'est...
Oui, il y en a même un qui dit, si je me trompe pas, il dit, en revoyant Les Vrais Perdants, je me suis aperçu à quel point mon père ne me laissait pas parler.
Oui, Junior, oui. Ce gars du hockey, oui, qui avait 5 ans. Oui,
c'est ça. Ça, c'était assez remarquant. Mais je me demande, parce que... une chose, certes, vous ne filmiez pas les gens à leur insu. Ils savaient très bien, ils avaient accepté, donc, de s'ouvrir comme ça. Mais peut-être ce que nous a aussi enseigné la pratique du cinéma direct, c'est une pratique de montage aussi, où tout à coup, ce que les gens ont dit, très spontanément, prenait un autre sens, tout à coup, dans le montage. J'imagine quand les parents ont vu le film, ils doivent pas avoir eu une réaction « oui, c'est tout à fait ce que j'ai dit » ou...
Ils ne pouvaient pas dire « je n'ai pas dit ça ».
Non, ils ne pouvaient pas dire ça, mais...
Ce qui fait l'impact, je ne dirais pas la force, là, mais ce qui fait l'impact d'un film comme « Les Vrais Perdants », mais il y aurait plein d'autres exemples de films québécois, c'est que prenez ces parents-là séparément. Aller souper un soir avec le père et la mère qui vont vous parler de leur fille qui fait de la gymnastique ou qui fait du piano, ça va être un petit peu gros, mais ça passe. Ce que j'ai fait avec la monteuse dans Les Vrais Perdants, c'est qu'on a pris 8-10 parents, père et mère, et on a mis ça en 1h30.
Concentré.
Et ça, le fait que ça soit aussi concentré... C'est un laser, là. Ça double l'intensité et ça devient insupportable à un moment donné.
Oui, c'est ça. Cette concentration au montage, là, tout à coup.
Il y a un effet de...
Et vous racontez une histoire, finalement, aussi, à travers...
Je racontais une détresse, pense, moi. Puis, tu vois, les jeunes de 40 ans, maintenant, qui étaient jeunes à l'époque, des vrais patins, m'ont dit... Je garde quand même des bons souvenirs et si c'était à refaire, je le ferais. Et ça, je respecte ça, puis ça me touche. Mais ils ont payé cher. Ils ont payé cher. Et je suis convaincu qu'il y a eu une détresse par moment chez un centre.
Par rapport à cette exigence qui était... personnellement, je crois que j'en suis convaincu.
Ce qui me touche beaucoup, c'est que ceux qui faisaient du piano, tous... Ils ont tous arrêté 2-3 ans après le tournage, donc vers l'âge de 15-16 ans, ils ont tout arrêté. Et sans se consulter, parce qu'ils n'avaient pas repris contact, sans se consulter, depuis 7-8 ans, ont repris le piano. Et ils le font pour eux autres, pour leurs blondes, pour leurs enfants. Et ça, je trouve ça magnifique, parce que là, ils ont retrouvé la vraie passion.
Mais c'est ça que j'ai senti dans Les Vrais Perdants. Tout cet esprit, finalement, je dirais, de l'époque, la manière dont on pratiquait le cinéma documentaire, c'est-à-dire avec des prises à caméra, mais aussi au montage, on arrivait à faire percevoir, ou du moins à faire en sorte que la réalité soit saillante. Tout à coup, elle devient évidente. Oui. Comme vous dites, si on va souper avec des parents... Bon, exagère, tout ça, mais là, tout à coup, au montage, on voit que c'est... Et ça, c'était très fort, et je crois que c'est un des legs les plus importants que le cinéma.
Ça, c'est... En tout cas, dans le contexte des Vrais Perdants, il y avait cette accumulation-là. Il y avait aussi un élément, et cet élément-là, sociologique, si je peux dire, a changé en l'espace de 30 ans. Et il y a plein d'entraîneurs qui me l'ont dit. C'est la relation entre le professeur ou l'entraîneur et l'enfant. Et ça a changé beaucoup et j'étais à même de m'en rendre compte. Il y a 2 ans, quand on a co-réalisé ce film-là, Dan et moi, on a découvert... Moi, c'est la première fois de ma vie que je filmais des relations de mentorat.
Mm-hmm.
Je pense à Yuli, par exemple, Yuli Turovski avec ce jeune violoncelliste. Je pense à
Joanne. OK, peut-être une des très belles relations.
Ah, mais c'est fascinant. Parce que là, le professeur qui est mentor devient, comme dit quelqu'un dans le film, un passeur.
Mm-hmm.
Et c'est quelque chose...
Ah, c'est très différent.
Le témoignage du jeune garçon, ouais, de Stéphane, qui dit « C'est un grand musicien, c'est aussi mon professeur, mais c'est avant tout, ami. C'est un ami.
Ouais. »
C'est un ami. Je trouve ça magnifique.
Mais avant d'arriver à l'âge de passion, j'aurais juste une dernière question des vrais perdants qui prépare un peu, qui nous prépare à la suite. Je me demandais si, à l'époque, vous aviez senti que vous aviez une forme d'expression, donc... qui avait un peu dépassé peut-être pas vos intentions, mais qui vous avait amené un peu plus loin que ce que vous pensiez à l'origine. Donc, je me demandais si vous étiez conscient de ça, ou un peu inconscient de ça, ou si vous étiez totalement conscient que c'était un moyen, ce moyen-là, c'était formidable pour mettre la réalité à nu.
Je peux pas dire que j'étais totalement conscient, mais oui, j'étais conscient. C'est-à-dire, je me rendais compte de l'effet de la caméra. La caméra, dans un film comme Les Vrais Perdants, elle fait 2 choses. Elle enregistre, elle témoigne de ce qui se passe, elle enregistre des mimiques, des paroles, elle enregistre. Mais deuxièmement, la caméra provoque aussi, le fait de sa présence. Quelqu'un qui est filmé, comme quelqu'un qui est enregistré,
ouais,
il n'a surtout pas le goût d'avoir l'air fou.
Généralement, non.
Ses parents-là se disaient, s'il a choisi mon enfant, c'est parce que je suis en train de l'amener en quelque part. Il faut que je sois à la hauteur,
mm-hmm,
du regard que ce monsieur-là porte sur moi. Donc, il y a un élément de provocation dans la présence d'une caméra. Et de le nier serait totalement malhonnête. Il y a un élément d'enregistrement. On enregistre ce qu'on a. On peut se rendre compte 30 ans après, comme les fameuses rondelles d'acier,
oui,
que c'était un frame-up, que ça, c'était vrai pour le frère du garçon, c'était pas vrai pour le garçon lui-même.
Oui, mais en même temps, il revient juste après avec une histoire de guitare.
C'était incroyable. Il l'avoue aussi. Il le dit très clairement. Il dit « La présence de la caméra a fait que mes parents ont beurré plus épais, en ont mis plus qu'en mettaient normalement. » Et tout de suite après, mais il dit « Il reste que... » Il en mettait beaucoup, même quand il n'y avait pas de caméra. Chantait leur présence là, aussi forte.
Mais j'ai une question qui s'en vient avec l'âge de passion. Il me semble qu'il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui parce que les parents aujourd'hui n'en mettraient pas tout à fait de la même façon, ou du moins joueraient semble jouer un autre rôle aujourd'hui que celui qui veut faire performer son enfant. Mais je vais y arriver tranquillement à cette question-là. Donc, passons à l'âge de passion maintenant qu'on a saisi un peu ce que vous avez fait avec Les Vrais Perdants. Maintenant, on va arriver à l'âge de passion qui on peut plus les prendre séparément. Ces deux films-là viennent ensemble, c'est
oui,
un tout. Donc, si je vous ai posé toutes ces questions à propos des vrais perdants, c'est que je me demande si ce n'est pas un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu votre dernier film, L'âge de passion. Au début du film, vous dites à ces enfants d'autrefois que vous aimeriez faire le point avec eux, comme s'il y avait eu des choses qui étaient restées non dites. J'ai eu l'impression, la première fois que j'ai vu le film, L'âge de passion, que vous vouliez faire... C'est pas quelque chose comme un mea culpa, comme si vous vous étiez rendu compte que vous étiez allé peut-être un peu trop loin dans Les Vrais Perdants, comme si la pratique cinématographique et la thèse que vous vouliez montrer vous avez fait peut-être un peu perdre de vue ce que les enfants ressentaient à cette époque-là en réalité.
Mais quand Anne-Marie, la recherchiste, a commencé à rejoindre ces jeunes-là, parce que les a rejoints via Internet, qui est un outil merveilleux, mais que je ne contrôle... Je suis un dinosaure, moi, là, je ne travaille pas. Elle a rejoint la plupart de ces jeunes-là, Et ce qu'elle a reçu comme feedback, c'est qu'il y avait beaucoup envie de me revoir, mais en même temps, et la plupart l'ont dit, pas tous, mais la plupart, que le film, la sortie du film, les avait blessés.
La sortie des vrais perdants.
Des vrais perdants. Ouais. Les avait blessés. Et ça, bon, si je vais être honnête, je ne peux pas dire que ça m'a étonné, ça m'a surpris, parce que j'ai effectivement, le film pointait du doigt des choses. Et ce qui est sorti, pour moi, c'est pour ça que la mise au point que j'ai fait le premier jour de tournage, parce que le premier jour de tournage de L'Ange de Passion, c'était la rencontre avec ces jeunes-là qui avaient été des enfants de L'Ange de Passion. Mm-hmm. On a passé une journée complète. Ils ont regardé le film, puis ensuite, on a discuté 4-5 heures. Pour moi, c'était fondamental de ramener ça sur la table dès le début, en disant... Ouais. C'est pas, je peux dire que c'est un sentiment de culpabilité, mais c'était plus, honnêtement, là, c'était plus un malaise. J'avais un malaise en disant, est-ce que ça vous a fait mal? Et dites-moi-le, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je leur dis, moi j'avais un parti pris, puis je l'assume encore autant qu'il y a 30 ans, mais ça vous a peut-être fait mal. Dites-moi là où ça a fait mal. Et là, les réponses ont commencé à sortir. La petite fille qui dit « Moi, c'est le titre qui m'a fait mal parce que je ne me suis jamais considérée comme une perdante. » Et c'était pour moi fondamental que ces choses-là sortent. Et c'était sorti, donc, 30 ans après. Ça avait été comme... La poussière était retombée, si on peut dire. Mais qu'ils le disent comme ça, pour moi, c'était très...
Et c'était important que ce soit filmé aussi? Bon, vous auriez pu très bien les rencontrer faire un autre film.
Ah! Oui, tout à fait. Mais je sais... Tu sais, la vie est tellement écartillée. Je sais pas si je...
Ça devait passer par...
Ça m'est arrivé de les rencontrer un ou deux par hasard. Parce que, bon, la jeune Isabelle qui jouait du piano, mm-hmm. c'est la fille de son père est décédé maintenant, mais c'était la fille de Marcello, qui est un des plus grands restaurateurs du Québec d'il y a 20 ans. Il y avait le restaurant Da Marcello, rue Laurier. C'était la gastronomie italienne, mais à son summum. Donc, j'allais à quelques reprises manger chez Marcello et je croisais Isabelle, mais c'était des hasards, les autres. Mm-hmm. Mais, non, le fait de les mettre ensemble, comme on voulait, Dany, Anne-Marie et moi, pour démarrer le film... Si on les mettait ensemble, c'est sûr que je mettais la question sur la table et je la posais très, très rapidement.
Oui, tout de suite.
Pour ne pas attendre la fin. Et puis bon, une fois que c'est fait, une fois que c'est filmé, c'est évident qu'on a le choix. Est-ce qu'on le garde au montage? Mais pour moi, c'est important de le garder au montage. Il y avait, je ne sais pas, par respect pour ces jeunes-là.
Absolument. Ouais. Et donc, ça devait repasser aussi par le média cinématographique, comme c'était ça qui avait causé... Repassons par...
Oui.
Ce qui change vraiment le point de vue, hein, aussi, le titre change, mais le point de vue aussi change, justement, surtout avec cette première scène, là, où on vous voit assis avec eux.
Oui, oui.
Bon, OK, mettons carte sur table d'emblée. Par contre, vous continuez à faire un film après cette scène-là, et c'est ce qui m'intéresse justement dans cette prochaine question. Je me demandais si dans L'Âge de Passion, vous prenez encore le parti des enfants, et ça c'est très clair. J'ai même envie d'ajouter, vous soutenez jusqu'à un certain point la même thèse que dans Les Vrais Perdants, mais d'une autre manière. Et même si le titre annonce en apparence autre chose, bon, L'Âge de Passion, c'est plus tout à fait Les Vrais Perdants. Le titre semble annoncer d'autres choses. Et je me demande, j'ai l'impression que L'Âge de Passion est comme divisé en deux. D'une part, vous discutez avec les enfants des Vrais Perdants qui aujourd'hui sont devenus adultes. Et d'autre part, vous avez filmé, interviewé des enfants ou des adolescents, hein, là, c'est plus tout à fait des jeunes enfants, c'est, je crois ça que le plus jeune a 11 ans.
Ça va jusqu'à 14 ans.
C'est ça, jusqu'à 14 ans. Donc, vous interviewez des adolescents qui pratiquent actuellement, donc aujourd'hui, un sport ou un instrument de musique à un haut niveau, hein, de performance. Donc, je vois deux différences entre L'Âge de Passion et Les Vrais Perdants. D'abord, il ne s'agit plus tout à fait de jeunes enfants, mais d'adolescents pour la plupart. Et ensuite, vous n'interrogez plus leurs parents, mais leurs entraîneurs. Donc, qu'est-ce qui a motivé un peu ce déplacement?
Alors, remarque que dans Les Vœux perdants, j'interrogeais les entraîneurs aussi. Il y avait un petit peu d'entrevues d'entraîneurs qui parlaient de discipline, qui parlaient... Bon.
Mais j'avoue, ce dont on se souvient, c'est surtout des parents.
Tu as tout à fait raison. Finalement, quand on regarde L'âge de passion, la question que je pose dans L'âge de passion, autant aux anciens enfants, comme on les appelait, ceux qui ont maintenant 40 ans, qu'aux jeunes qui pratiquent une discipline dans le film, c'est la même question, c'est juste le temps du verbe qui a changé. Aux anciens enfants, aux ceux qui avaient 42 ans, ma question était, la question essentielle, c'est est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine? Et la question aux jeunes, est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est la question principale. Dès le début de notre recherche, Anne-Marie, Danny et moi, dès qu'on a commencé à rencontrer les enfants, alors que ça faisait quand même 30 ans, je lisais des trucs sur les journaux. Bon, entre autres, il y a encore eu une phase de violence au hockey chez les jeunes, ou même c'était les parents qui se tapaient sur la gueule dans les gradins. Mais j'étais plus ou moins prêt. Donc, mais on a travaillé quand même un an et demi de recherche, Anne-Marie, Danny et moi. Et ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à rencontrer les enfants, d'abord, c'est un degré d'autonomie beaucoup plus grand qu'il y avait 30 ans plus tôt. Une capacité de témoigner, une capacité de nommer les choses, de dire les choses beaucoup plus grande qu'il y a 30 ans. Et ça m'a frappé. Et quand on a commencé à aller observer les moments de pratique, de répétition, là, c'est la relation. Autant avec un coach de patin qu'avec un professeur ou une professeure de violon, de corde. Là, c'était différent. Et c'est dans ce sens-là qu'avec Danny, on s'est dit... Avec les parents, ça a changé un peu aussi. Pas complètement, mais on avait beaucoup donné dans les vrais perdants.
Donc, vous vouliez faire parler un peu plus les adolescents aujourd'hui sur...
En gardant la même question. Est-ce que ça vaut la peine? Puis de voir comment se passe la relation. Et là, j'ai pas l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression de rêver... Mais quand je regarde, par exemple, certains professeurs des vrais perdants avec les enseignants et les professeurs, ce que je sentais il y a 30 ans, c'était le désir que cet enfant-là gagne. Il faut qu'il gagne, il faut qu'il soit première, il faut qu'il gagne le concours. Donc, joue comme moi je jouerais. Alors que là, il y a une écoute avec l'enfant et c'est de l'amener pour lui ou pour elle le plus loin possible. Et on a filmé dans les mêmes situations de préparation de concours. Il n'était pas question. C'était « va le plus loin que tu peux ». C'était fatigué, on arrête. Donc, il y a une relation très, très différente. Et ce que je chantais des professeurs de l'âge de passion, c'était un amour total pour ce qu'ils faisaient. Pour le violoncelle, pour le violon, pour le patinage. Ils aiment ça. Donc, et ça entraîne une relation, et c'est ça la grande différence, une relation complètement nouvelle avec l'enfant.
Mais j'ai tout de même senti, premièrement, que les enfants étaient un peu plus vieux. Donc, c'est des adolescents dans l'âge de passion, donc ils sont, du moins, ils parlent plus spontanément. Quand on a 14 ans, on est déjà en...
Mais les jeunes de 10-12 ans actuellement parlent plus que les jeunes de 15 ans d'il y a 30 ans.
Donc,
il y a une question d'autonomie qui est reliée à l'âge. Ça, tu as raison. Mais l'enfant dit plus les choses maintenant.
Mais j'ai eu cette impression-là. Je me suis dit, dans Les Vrais perdants, finalement, les enfants sont un peu plus jeunes. Et souvent, bon, ils sont près de leurs parents. Pas toujours. Les parents sont près. Et on dirait que c'est leurs parents qui leur demandent, donc ils leur exigent de faire des choses. Et ces enfants-là sont comme soumis à ce désir-là. Et veulent être aimés, donc, de leurs parents et de leur famille. Donc, OK, ça va. Donc, pas qu'ils obéissent, mais ils veulent pas décevoir leur famille. Ce que j'ai vu un peu plus, vous avez comme dépersonnalisé ou défamiliarisé la relation en parlant avec les entraîneurs plutôt qu'avec les parents dans l'âge de passion. Et là, j'avais plutôt l'impression, surtout avec l'entraîneur de patinage, à un moment donné, il dit, bon, à un moment donné, il faut faire la part entre ce qui est un sport d'élite et ce le divertissement. Si tu veux divertir, tu vas patiner. Ouais. Et là, tout à coup, il se lance et il dit, ben, finalement, nous ici, il faut les faire performer parce que, même à un moment donné, il dit, ben, on vise tous les grandes compétitions et au bout de la ligne, c'est les Jeux Olympiques. Et finalement, moi, comme entraîneur de performance, ben, il faut que je les amène là parce que c'est le pays, à un moment donné, qui doit gagner des médailles. Et s'il n'en gagne pas, on va nous regarder, nous, les entraîneurs, que vous n'avez pas fait votre job. Donc là, tout à coup, ces adolescents-là, ils sentent plus les désirs de leurs parents, mais plutôt des désirs de la société. Et c'est là que je me demandais qu'il y avait une similarité dans la thèse. Qu'est-ce qui est pire, finalement, d'être soumis, pas d'être soumis, mais d'être sous l'emprise des désirs de la famille ou être sous l'emprise des désirs de la société? Donc, je me demandais,
une thèse similaire. Tu touches à quelque chose de tellement relié à ce film-là, mais qui ressort pas. Je sais pas comment le faire sortir plus, mais il reste.
Mais c'est là, je crois
que le syndrome du, j'appelle ça moi le syndrome du podium. Et c'est universel et c'est de plus en plus universel, beaucoup plus que même il y a 30 ans. Parce que l'enfant qui patine dans un quartier, il joue pour une petite équipe. Ensuite, ça va être la ville. Ensuite, ça va être le pays, la province. Ensuite, ça va être le pays. Et tout ça, c'est des milliers de personnes qui se ramassent en fait, mais pour en avoir un ou deux, c'est très lourd comme exigence pour un enfant, un jeune. Parce que j'essayais de voir avec les enfants, vous êtes combien à avoir ton rêve d'aller faire les Olympiques puis de gagner? Puis ce qui est merveilleux, la petite fille, à un moment donné, c'est comme ça, découvrir, ben, on est des milliers. Puis là, elle me regarde, c'est étonnant, puis elle me dit, elle dit, c'est un rêve. Elle dit, même si je ne le réussis pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir des rêves. Mm-hmm. Et là, ça me dit, moi, je me dis, OK, si c'était. Mais il reste que c'est d'une exigence.
Oui, 20 heures, 25 heures de patin par semaine.
Puis à un moment donné, je fais un petit. Il y a un petit paragraphe, là, un petit chapitre dans le film sur les blessures physiques. Et.
Ça aussi.
C'est pas évident. Donc. C'est toujours revenir à la question, est-ce que ça vaut la peine? Puis moi, l'utopie, puis je l'ai ramené à quelques reprises, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir une entente planétaire que jusqu'à l'âge de 14-15 ans, que ce soit récréatif?
Mais il dit c'est trop tard parce qu'il faut les préparer d'avance,
puis,
etc.
Tu vois, puis il y a Yoli qui dit, je ne serais pas politically correct, mais il faut qu'un enfant commence à jouer très, très jeune. Pour moi, à l'intérieur du documentaire « L'âge de passion », ces questions-là ne sont pas résolues. Mm-hmm. Elles restent là. Et la solution, c'est quelque chose de tellement complexe. Mais pour moi, la piste essentielle, c'était la passion de ces jeunes-là. Et ça, je l'ai senti. Maintenant, il faut voir à quel prix.
C'est exactement le déplacement, donc plus vers les entraîneurs et en évacuant un peu les parents. C'est là que j'ai senti qu'effectivement, ces enfants-là étaient effectivement passionnés. Je crois qu'ils le sont. Mmh. Ils sont convaincants aussi dans leur passion, tout ça. Mais en même temps, il y a une machine derrière eux qui les pousse à performer. Même à un moment donné, il y a une entraîneuse de patins, je crois, et elle dit, c'est pire qu'il y a 30 ans.
Ah, tout à fait, elle le dit.
Donc là j'ai tout de suite vu un lien avec les vrais. C'est pire qu'il y a 30 ans, parce que, bon, avant, accéder à une compétition québécoise, c'était un petit peu plus facile. Ouais. Il n'y aura pas d'entrée pour tout le monde. Donc.
Tu vois, moi, ma petite-fille, la petite-fille de ma femme, qui est comédienne, comme sa grand-mère, depuis 3 ans maintenant, il y a 30-40 ans, il y avait peut-être 300 comédiens, comédiennes dans l'Union des artistes. Ils sont, je pense, 4-5 000 aujourd'hui. Chaque année, il y a 100 comédiens qui sortent des écoles, juste des 5 écoles au Québec. Sur le marché du travail, 100 nouveaux comédiens. Et je parle à Ève des fois, c'est terrible, toute la compétition. Mais en même temps, ça force des fois des jeunes comédiens, comédiennes à se mettre en gang puis à faire leur propre show. Encore hier soir, j'allais voir un spectacle qui est monté par des jeunes. Donc, mais oui, autant pour l'âge de passion où on sent que la compétition est devenue féroce, puis pas seulement dans le patinage, dans le sport, mais dans la culture aussi.
La culture,
c'est exigeant, oui.
C'est ce que le film nous fait ressentir, enfin, nous fait ressentir, entre autres.
Ça me rassure ce que tu me dis, parce que pour moi, d'aller regarder ce film-là, l'âge de passion, puis de dire que Il n'y a rien qui est réglé, de toute façon. Ça nous entraîne sur des pistes essentielles de dire, elle est où la passion de l'enfant, puis est-ce qu'on la respecte, cette passion-là? Mm-hmm. Mais au niveau de l'encadrement social et politique de ça...
On entame un peu ma prochaine question. C'est justement si les parents ont été un peu mis de côté, peut-être parce qu'ils ont été remplacés par ces entraîneurs-là, et les parents, ce sont plus eux qui ont plus besoin de faire le rôle, le sale rôle de celui qui exige la performance, au contraire. Et c'est là qu'on voit, vous laissez qu'un seul parent, je crois, dans le film. C'est celui de la jeune patineuse, je crois que c'est le seul parent. J'ai comme senti à ce moment-là, quand vous l'interviewez, que vous vouliez dire autre chose que ce que disait le père exactement. Le père, ce qu'il disait finalement, c'était tout ce qu'un bon père dirait, affirmerait, bon, il veut que sa fille soit heureuse, puis il veut pas tout à fait qu'elle soit performante, parce que finalement, quand elle arrêtera de sourire en faisant du patin, ben elle arrêtera, puis nous, on... Ouais. C'est exactement l'énoncé inverse que du père dans Les Frères Pardins, qui dit « je serais tellement déçu, là ».
Mais ce qu'on n'a pas pu mettre dans le film avec ce père-là, pour moi, c'était un exemple, c'est qu'il est là à tous les concours de sa fille. Et il la suit beaucoup, beaucoup. Mais effectivement, moi, quand je le crois quand il me dit « ça fait 5 ans que je la vois faire du patin artistique, je ne suis pas capable encore de différencier un saut d'un autre », mais quand elle est sur la glace, c'est son visage que je regarde. Et le jour, elle arrêtera de sourire. C'est une façon de dire les choses. Moi, je le sens moins menaçant et je sens que pour sa fille, de sentir ça, c'est moins astreignant que si son père disait « si elle quittait un jour la gymnase, ça serait la plus grande déception que j'aurais dans ma vie », ». Oui. Ce qui est très lourd à porter.
Donc, c'est ce que le film, malheureusement, pas tout à fait montré, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, avant de faire l'entrevue avec vous, je me suis demandé, bon, est-ce qu'il est allé voir Les Vrais Perdants, puis il a fait « ok, je vais faire le père plus tôt ».
Les Vrais Perdants, mais je crois pas que là, c'est un frame-up. On le regardait. Mais les choix qu'on a faits, et c'est tout choix est discutable, mais les choix qu'on a faits, Danny et moi, avec le monteur, c'était vraiment à partir de la surprise qu'on a eue, nous autres, de découvrir la relation que les entraîneurs ou les professeurs avec les... C'était d'aller plus loin là-dedans. Et je me souviens très bien que la réaction, entre autres, des diffuseurs, que c'est Télé-Québec, quand ils s'en venaient voir la suite des Vrais Perdants, et il était très surpris en disant « c'est pas très polémique ». Et je leur ai dit « c'est pas le but ». Ce qu'on a découvert à travers pour moi, Les Vrais Perdants étaient quelque chose de polémique parce qu'il y avait quelque chose à dénoncer. Oui. Là, c'est quelque chose qui nous a fascinés, c'est des relations différentes. Alors, le film, effectivement, c'est une autre couleur. Et j'ai réussi, j'ai pu, avec Danny aussi, suivre le film dans 4-5 projections, ce que j'appelle, moi, les projections de cuisine, là, avec des petits groupes de parents ou d'éducateurs. Et ce que je peux dire de L'âge de passion, c'est que c'est un film qui stimule beaucoup à entretenir une relation professeur-élève.
Oui, donc, oui,
de mentorat, de support.
Surtout avec le violoncelliste, là, j'avoue, avec c'était très. C'était une belle complicité, une belle amitié. Peut-être qu'on le sent moins avec les patineurs, mais avec eux,
c'est une exigence, cet instrument-là, que ce soit le violon ou le violoncelle. Et, c'est. Les autres, ces jeunes-là, je continue, par exemple, comme le petit Stéphane, je vais le voir jouer. Il joue. Et c'est pas possible ce qui attend cet enfant-là, parce que c'est sa grande, grande passion. Tous ces enfants-là étaient passionnés de toute façon.
J'aimerais terminer sur un rapprochement. Donc, en rapprochant vos deux films, Les Vrais Perdants de 78 et L'âge de passion de 2007, vous avez scellé leur sort. On pourrait difficilement parler maintenant des Vrais Perdants sans penser à l'autre et vice-versa. Je crois que... Même s'ils sont différents, même si l'un est plus polémique, l'autre, il y a tout de même quelque chose. Ils forment tout de même un ensemble. Vous avez, je crois, je crois que vous avez changé tout de même le point de vue un peu sur, oui. Sur les vrais perdants, c'est-à-dire que vous avez réglé en tout cas certaines choses avec les enfants qui sont aujourd'hui adultes. Donc cette expérience me semble assez rare, hein, et assez remarquable, autant par le courage hein, qu'elle exige que par l'humilité aussi que ça implique de revenir tout de même faire un film et le vouloir le transporter ailleurs plutôt que de faire faire une répétition ouais. Mais actualisée, une réactualisation. Donc, il vous a fallu, ni plus ni moins, prendre la mesure, hein, et là, je crois, de votre rapport avec les enfants, mais aussi avec votre pratique, je crois aussi avec votre pratique du documentaire, d'y réfléchir du moins un peu comme un tout, peut-être même de le critiquer, ou en tout cas, de revenir sur cette pratique-là. Donc, j'aimerais conclure donc en élargissant le plus possible ce retour. Vos deux films, donc, dans la répétition de leurs propos, même s'ils vont dans deux sens différents, il y a quand même une répétition de leurs propos. Vous interviewez des enfants qui pratiquent un sport ou un instrument de musique à haut niveau. Hein, sont très différents, comme s'il y avait une évolution, un progrès, en tout cas un changement assez radical entre eux. J'aimerais savoir si les différences qui les distinguent hein, vous appartiennent en propre, si elles sont issues de votre expérience personnelle en tant que cinéaste et en tant qu'intervenant avec les enfants, ou bien, au contraire, si elles appartiennent à une manière de faire du documentaire à une époque aussi, hein, une époque qui vous conditionne un tant soit peu comme documentariste. Autrement dit, je me demande si les différences entre vos deux films n'indiqueraient pas aussi un changement dans la manière de faire du cinéma documentaire au Québec ou ailleurs. Donc, changement entre comment on pratiquait le cinéma direct dans les années 60-70 et comment on le pratique aujourd'hui. Oui. Je vous demande finalement comment vous envisageriez l'évolution de votre propre expérience de documentariste en regard de l'évolution de oui. la pratique du documentaire oui. en général.
Oui. Il y a plusieurs choses qui ont changé. Si on parle des vrais perdants et l'âge de passion, c'est 30 ans de distance. En 30 ans, il y a des choses qui ont changé. Mon rapport... je ne suis plus le cinéaste que j'étais il y a 30 ans. J'ai changé des choses, des fois pour le mieux, des fois peut-être pour le pire, mais j'ai changé. Je ne pourrais pas refaire être comme j'étais au moment du tournage des Vrais Perdants. Possiblement que je suis encore plus prêt à entrer en contact, à aller fouiller. Bon. Ce qui a changé aussi beaucoup, et ça c'est très important, c'est strictement au niveau technique, qu'on a des moyens beaucoup plus souples et légers de travailler. Déjà, quand on a fait Les Vrais Perdants, c'était beaucoup plus léger en 77, ouais. 78 que ça l'était 10 ans plus tôt. Maintenant, avec le HD, avec la haute définition, on se transporte dans un endroit à un autre beaucoup plus rapidement. On est beaucoup moins dépendant du support lumière.
Oui, aussi.
Je pense à L'Ange de Passion, mais je pense aussi au Printemps Fragile, où j'avais interdit aux directeurs photo de rajouter des lumières. Mm-hmm. Pour une raison bien simple, c'est que je ne veux pas travailler avec des spots parce que les enfants vont se rendre compte qu'on les filme. C'est des spotlights, ça fait pas partie du décor de cette maison-là.
OK.
Tu peux prendre une 50 puis mettre une 75 si tu veux, mais on ne change pas. Donc, on a travaillé dans les sources lumineuses qu'il y avait là. Ça, il y a 20 ans, ça n'aurait pas été possible. Maintenant, ça l'est parce que la pellicule ou la vidéo est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sensible. Et ça provoque des changements dans l'approche aussi. On peut se déplacer plus rapidement, on peut s'installer plus rapidement. Donc, c'est sûr que ça joue.
Et la présence peut-être de l'équipe elle est peut-être aussi un peu plus réduite.
La présence de l'équipe, pas nécessairement, mais elle peut être plus réduite.
Oui. Donc, vous entrez plus en contact
oui,
avec...
Oui, ça change le contact.
Ça change complètement.
L'infrastructure de tournage est différente, ça change le contact, tout à fait.
Mais si on revient sur ce que vous avez dit que Les Vrais Perdants, c'est un film polémique et L'Âge de Passion n'est plus un film polémique. Qu'est-ce qui aurait changé? Parce que tout de même, dans l'âge de passion, on l'a dit un peu plus tôt, il y a tout de même cette idée que ces enfants-là, malgré leur passion, ils veulent. Mais vous mettez pas cette idée, en tout cas, tout à fait en évidence. Elle recule.
Elle est là. Je voulais pas trop... si on fait un rapprochement, pour moi, les vrais perdants, c'est un cri. J'ai toujours dit, les vrais perdants, c'est plus... Avant d'être un film, c'est un cri. C'est un cri pour dire, réveillons-nous, les adultes, on est en train de passer à côté de quelque chose. L'âge de passion, même si les conditions de travail de ces enfants-là est beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus exigeantes, la relation entre le professeur ou l'enseignant ou le coach et l'enfant, pas à 100%, mais la relation en l'espace de 30 ans a changé beaucoup. Ces enseignants-là ou ces coachs-là maintenant ont des cours, donc il y a une sensibilisation au travail avec l'enfant, et ça a changé. J'ai voulu, avec Dani, mettre le foyer, le focus du film sur cette relation-là, et d'aller ressentir toute la passion que l'enfant avait. Et j'étais aidé là-dedans par sa capacité qui est plus grande maintenant, de dire les choses.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a 30 ans, vous auriez moins bien réussi à aller saisir cette passion parce que vous vouliez plutôt montrer, au contraire, que ces enfants-là, il y avait une exigence sur eux?
Moi, il y a 30 ans, puis c'est pas machiavélique, là, mais il y a 30 ans, ce que je chantais des enfants, c'est qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, mais qu'ils étaient piégés. Beaucoup plus... que les enfants maintenant. Oui. C'est que... Et ce que les enfants disaient, parce qu'ils ne parlaient pas devant les parents, c'est pour ça que je les ai ramenés seuls à l'ONF pour les interviewer seuls, parce que devant les parents, ils ne parlaient pas. Ce que je sentais que les enfants me disaient, c'est que mon père et ma mère sont tellement contents quand je gagne. Ma mère est tellement contente qu'elle me donne 2 jours de congé de piano. Ou bien pour ma mère, elle disait toujours le hockey, que si elle me voyait à la télévision que je jouerais au hockey pour le Canadien, ça serait comme ça, elle aurait gagné le gros lot. Donc, il y avait un détournement de plaisir, comme il y a un détournement d'avion. C'était pas lui qui... Là, ce que je sens en 2007, 2008, chez ces jeunes-là qui font du violon ou du patinage, c'est qu'ils ont un réel plaisir personnel à le faire. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le sentiment d'appartenance qui est très, très fort, surtout dans les sports. Là, ça, c'est un plus aussi.
Donc, on pourrait dire, finalement, avant même votre expérience cinématographique, c'est votre sujet qui va vous mener, finalement, ou qui va vous donner la piste ou la direction. Oui, donc, en 78, vous sentiez qu'à cette époque-là, il fallait crier pour ces jeunes. Et aujourd'hui, ou plutôt, les regarder.
Pendant la recherche des vrais perdants, là, j'ai vu des choses que je filmais pas à l'époque parce que c'était une recherche, donc j'étais là avec mon calepin. Des choses que pour moi qui étaient horrifiantes. Horrifiantes. C'est sûr qu'il y en a encore. Mais quand on a commencé à entrer dans le vif du sujet en préparation de l'âge de passion... C'est autre chose que j'ai découvert qui me sautait à la figure dès les premières fois. Et ça se répétait d'un enfant à l'autre. Cette relation-là, entre autres, avec le professeur, sa capacité de dire « oui, j'aime ça », puis... Fait que ça change.
Donc, on va terminer là-dessus. Ben, je vous remercie beaucoup.
C'est intéressant de revenir...
Monsieur Melançon. Thank you.